Ce que je vous propose de continuer à approfondir, c'est le troisième fondement de la pleine conscience. Nous avons travaillé le corps, squelette, inspire, anapanasati. Le deuxième fondement, c'était l'exercice de semaine, c'est-à-dire les ressentis agréables, désagréables, neutres. Et le troisième fondement, ce qu'on appelle citta en pali, c'est l'esprit ou le cœur, c'est en fait ce processus qui fait que nous sommes dans une perpétuelle création du monde. C'est moi qui crée le monde. Je peux bien le projeter comme réel, mais ce qui est très étonnant, c'est que chaque réel de chacun d'entre nous est différent. Donc c'est bien moi qui crée le monde. Et lorsque nous parlons de citta, c'est extrêmement lié à la pensée. C'est aussi lié à ce qu'on appelle ces cinq khandhas dont j'ai déjà beaucoup parlé, comment un contact visuel, auditif, conceptuel crée un ressenti avec une perception ou une représentation. Et à partir de là, la pensée émerge. L'autre soir, vers 10 heures, tout d'un coup j'entends des espèces de boum, et puis de boum boum boum, et puis je me dis, mais attends, il n'y a pas de militaire à Oron, on n'est pas en guerre, est-ce qu'il y a un arsenal qui explose, des nerfs qui explosent? Et puis c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas de référence perceptuelle. Donc il y avait uniquement le contact, le ressenti, c'était désagréable, questionnant, mais questionnant désagréable. Et puis rien, puisqu'il n'y avait pas de représentation possible. Alors je suis allée ouvrir ma fenêtre, j'ai mis le nez dehors. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait un feu d'artifice à Oron à 10h30 le soir. Ça devait être un feu d'artifice privé, j'imagine, mais en gros, ce feu d'artifice qui a au moins duré un quart d'heure. C'était intéressant comme expérience. Il n'y avait aucune perception, aucune représentation, le son pur, parce que je n'avais pas de système. Nous avons un système référentiel auquel nous faisons immédiatement référence, et puis là-dessus nous construisons. Mais nous ne pouvons pas construire s'il n'y a pas de système référentiel. Pourquoi c'est important de mettre la lumière sur ce processus intérieur? C'est que nous sommes responsables de créer des pensées qui sont des pensées de sagesse et de libération, ou de nous laisser créer des pensées qui sont des pensées non bénéfiques, inquiètes, stressées, schématiques ou égoïstes. Ça, c'est notre responsabilité. J'ai retrouvé tout un tas de paroles que j'avais tirées dans une retraite des suttas. Alors, je vous en lis une. Dans les ressentis plaisants, bhikkhu, l'inclination à l'avidité devrait être abandonnée. Dans les ressentis déplaisants, l'inclination à l'aversion devrait être abandonnée. Dans les ressentis neutres, l'inclination à l'ignorance devrait être abandonnée. Si un bhikkhu a abandonné dans les ressentis plaisants l'inclination à l'avidité, dans les ressentis déplaisants l'inclination à l'aversion, dans les ressentis neutres, l'inclination à l'ignorance, alors on peut dire qu'il est libre des inclinations non salutaires et qu'il voit clairement. Il a éliminé les impuretés et par la disparition de l'orgueil, il a mis fin à la souffrance. Nos constructions sont directement dépendantes de cette avidité pour l'expérience plaisante et de cette aversion pour l'expérience déplaisante. C'est pour ça que c'est tellement important de déjà bien conscientiser l'expérience simplement comme plaisante, déplaisante, sans rien rajouter. Et après, je peux voir, ah oui, il y a cette attirance lorsque c'est plaisant et ce rejet lorsque c'est déplaisant. Et si je lâche prise de cette attirance et de ce rejet, eh bien, automatiquement, les constructions sont des constructions de sagesse. Et c'est quelque chose d'assez défiant parce que nous avons vraiment envie de nos expériences plaisantes. Et pourtant, de mettre la lumière sur cette envie elle-même, c'est le chemin. Nous pouvons bien mettre la lumière sur l'aversion pour l'expérience déplaisante, mais c'est aussi important de voir. Oh, j'ai tellement envie d'expériences plaisantes. Est-ce que je peux abandonner cette avidité? Ça veut dire, est-ce que je peux survivre sans ça? Le sutta continue. Si tu ressens de la joie, mais ignorant ton ressenti, tu te lies à l'avidité, tu ne trouveras pas la délivrance. Si tu ressens de la peine, mais ignorant la nature des ressentis, tu te lies à l'aversion, tu ne trouveras pas la délivrance. Et même avec les ressentis neutres qui sont dits paisibles par le maître de la sagesse, si tu t'y attaches, tu ne seras pas libre. Mais si tu es ardent, que tu ne négliges pas de pratiquer la présence et la compréhension claire, tu vas pénétrer la nature de tous les ressentis. Et ayant fait ainsi dans cette vie, tu seras libre de toute impureté et de toute ombre. Avec une maturité de connaissance, une fermeté dans le chemin du Dharma, à la fin de ta vie, tu transcendras toute limite et tout concept. Les pensées bénéfiques, c'est aussi important de voir parce que souvent, avec une pensée non bénéfique, il y a une pensée bénéfique. Avec une pensée de jugement, il y a ce mal-être qui doute. Il y a du doute. Est-ce que c'est vraiment bien, ça? Et ce doute est sagesse. Ou cette investigation. Lorsque je suis égoïste, ce questionnement, mais est-ce que vraiment c'est ça? C'est sagesse. Je tente de faire un discernement par rapport à ce qui me mène à la souffrance. Et c'est important de se libérer, déjà de s'intéresser aux pensées. Très important de s'intéresser aux pensées telles qu'elles sont, non pas telles que je les veux. Jugement, s'il y a jugement. Projection, s'il y a projection. Inquiétude, si c'est des pensées d'inquiétude. Culpabilité, passé, futur. Juste s'intéresser aux pensées. Et puis, Euh, J'aime bien reprendre ces cinq manières de faire avec la pensée pour s'en libérer. La première, c'est justement de les nommer, au moins de savoir à sa pensée, et de ne pas être immédiatement « je pense donc je suis ». Je suis ce que je pense. Je ne suis pas ce que je pense. Comment ça se fait que je suis en train d'enseigner comme je le fais maintenant, j'en sais rien. Ça se fait. C'est conditionné. Nous sommes des êtres conditionnés sur des rencontres, des karmas passés peut-être, des endroits de vie, des situations de vie qui font que tout d'un coup, ben voilà, on est aujourd'hui comme ça, pas autrement. Et tout ce qu'on partage est conditionné. C'est important de le savoir, je ne suis pas ce que je pense. Donc nous pouvons nous intéresser non pas tellement à ce que je dis, mais à « ah, il y a des pensées qui émergent ». Pour moi, juste maintenant, vu les conditions, c'est des pensées que je puise dans une sorte de bagage de connaissances spirituelles. Le deuxième aspect, c'est de voir qu'est-ce qui fait que ces pensées émergent, et tout particulièrement lorsque ce sont des pensées non bénéfiques, il y a toujours un ressenti à la base qui fait que ça émerge sous forme d'agacement ou sous forme de doute ou de colère ou de peur. Et nous pouvons aller voir, plutôt que de rester « je suis cette pensée », « ok, je suis inquiète pour ta nanana », mais quel est le ressenti derrière ?« Ah, j'aime pas cette sensation physique d'inquiétude, je l'aime pas ». Alors je me projette dans la pensée avec derrière le but de faire partir l'inquiétude. Et puis c'est pas comme ça que ça marche. Ou peut-être quelquefois, mais pas souvent. Donc aller voir et se laisser sentir. Ah ouais, ça c'est douloureux. C'est vraiment douloureux de sentir le stress ou l'inquiétude ou la frustration. Le troisième aspect, c'est de remplacer les pensées non bénéfiques par des pensées bénéfiques, particulièrement les pensées de bienveillance. Quand je juge, je vois que je juge et je peux amener une pensée bénéfique pour moi peut-être, que je sois libérée du jugement, que je sois dans le discernement et l'ouverture du cœur. Et ce que véhicule une pensée non bénéfique, c'est quelque chose de disharmonieux. Et ce que véhicule une pensée bénéfique, c'est quelque chose qui nourrit autrement, qui apporte autre chose au corps, même au niveau cellulaire. Le quatrième aspect, c'est se souvenir que c'est franchement inutile. Quel temps nous perdons à concevoir beaucoup trop. Dans un sutta, le Bouddha dit « concevoir est une tumeur, une maladie ». Nous concevons beaucoup trop. Savoir employer, maîtriser la pensée pour en faire juste ce que je veux. Donc nous pouvons nous souvenir, quand nous avons des pensées obsessionnelles, que c'est la 50e fois qu'elles traversent l'esprit, franchement c'est inutile. Ça aide à lâcher. Ce sont tous des moyens, toutes ces différents aspects sont des moyens habiles qui nous aident à lâcher. Et le dernier, vous vous souvenez ? Ouais. C'est dire non. Dire non, comme le Bouddha donne une très jolie image pour se souvenir que c'est vraiment inutile, que c'est vraiment bête de faire ça. Il donne l'image d'une belle femme. Nous avons tous intérieurement notre beauté intérieure. Alors, une belle femme, mais qui aurait comme écharpe un chien crevé. Et puis pour dire non aux pensées, l'image c'est un homme ivre qui casse tout dans un bistrot, et par sagesse on le terrasse et on le maintient au sol. Quelquefois, il faut faire ça avec les pensées qui nous pourrissent la vie et qui font du mal au corps. À force que je me juge moi-même, je me fais tellement de mal au corps. Parce que le corps sent tout ça, c'est subtil. La connaissance de l'expérience, au niveau conceptuel, au niveau des ressentis et dans le processus, ça n'a qu'un seul but, c'est l'abandon et le lâcher prise. C'est pas si facile de lâcher prise du plaisir pour les expériences bénéfiques. Là, je vais vous lire encore le reste. Le renoncement physique, c'est-à-dire ce que l'on fait ici, arrêter de s'agiter, de vivre, de jouir de la vie. Le renoncement physique, la solitude, est la cause du développement du renoncement psychique, de l'espace intérieur. Le renoncement psychique est la cause du développement, du renoncement, des impuretés de l'esprit qui sont cause de souffrance. Et le renoncement psychique, c'est la claire vision de cet attrait et de ce rejet. Parce que la libération, ça n'est pas l'expérience. La libération, c'est ce qui est au-delà de l'expérience. Et c'est difficile pour le moi de se dire qu'il ne va plus jamais pouvoir être dans cette exaltation de l'expérience. Il n'a pas envie. Il aimerait vivre des expériences bénéfiques. Mais l'exercice de la méditation nous montre que ça ne marche pas. J'essaye de satisfaire mes désirs et puis il y en a toujours d'autres qui viennent et puis encore d'autres et puis c'est sans fin. Je veux être heureuse, et bien ça veut dire que je ne le suis pas. Puisqu'il est là-bas le bonheur. Alors comment trouver une autre manière de se lier à l'expérience? Et la pratique, c'est vraiment ça, être là. Je suis là. Et c'est assez. Et le faire souvent. Je vous lis encore. Nous sommes comme des oiseaux en cage. Peu importe que la cage soit merveilleuse, l'oiseau n'est pas content. Il a sans cesse l'espoir de la liberté. Et il souffre d'être enfermé. Les riches et les privilégiés n'ont pas plus de chance. Ils sont seulement enfermés dans des cages dorées. Depuis le moment où tu entends le Dharma, jusqu'au moment où tu es Dharma, le Dharma c'est la vérité, je crois que tout le monde le sait maintenant, tu vas encore souffrir et tu ne seras pas libre de l'expérience, jusqu'à ce que tu sois Dharma. Ton bonheur est dépendant de facteurs extérieurs. Tu t'appuies sur eux. Tu t'appuies sur les plaisirs, ta réputation, la richesse, les objets matériels. Tu peux avoir toutes sortes de connaissances, mais elle est teintée par les intérêts du monde. Et tu ne peux pas être délivré de la souffrance. Tu es encore comme un oiseau en cage. Lorsque nous nous intéressons au processus de conscience, nous nous rendons vraiment compte que nous sommes conditionnés. Et ça nous fait sortir de la cage. Ok, je suis conditionnée, mais où est le problème? Je suis conditionnée, mais je le sais. Et dans ce « je le sais », il y a toute la sagesse du monde. J'arrête de demander à ce corps, à ce mental, à cette vie à l'extérieur, à cet autre, à ce frère, à cette sœur, d'être comme comme je les veux. Ils sont tels qu'ils sont. Conditionnés. Et la pleine conscience, c'est cette goutte de conscience universelle qui me relie au un, qui me relie au rien, et qui me fait comprendre que je ne suis personne, et que je peux employer ce corps et cet esprit de manière extrêmement bénéfique, puisqu'il n'y a pas d'enjeu toujours, ni de réussite, ni d'échec, ni de valorisation, ni d'abandon. Je ne peux pas être abandonnée puisque je suis là. Et que je suis là inclus dans le tout. Pas seule. Avec la pleine conscience, quand j'habitue le corps à être tenu, hein, on peut presque dire, dans les bras de la pleine conscience, alors le corps ne peut pas se sentir seul. Quand je dis je suis là, c'est pas seulement que je suis là, c'est que je fais partie du tout. Je suis là, mais il y a la conscience intérieure et extérieure. J'entends le silence, je sens l'espace, et c'est tellement bon. Mais l'espace et le silence, c'est du rien. C'est du rien qui me porte. Les gens vertueux toujours lâchent prise. Ils ne parlent pas de plaisir et de désir. Touchés par le bonheur, puis par la souffrance, le sage ne montre aucun signe d'exaltation ou de désespoir. Parce qu'il y a l'exaltation et le désespoir, mais il y a le sage. D'une certaine manière, il n'y croit pas. C'est important de comprendre que l'intérêt, cette science de l'esprit qui fait que je m'intéresse au moi, c'est dans le seul but de comprendre, et la compréhension, c'est du lâcher prise. J'aime beaucoup quand Ajahn Chah dit « il vaut mieux mourir avant d'être mort ». Je meurs à moi-même. J'arrête cette espèce de fermentation d'un moi qui a peur, qui veut pas, qui trouve, qui... C'est pénible. Puis comme tout le monde le fait, ben on est coincé aussi dans un phénomène de groupe. Alors ça recommence encore et encore. Et nous ne voyons pas que c'est pure création. C'est pure création, c'est rien, c'est du rien. C'est du rien. Dans une demi-heure, on sera tous moins, tout ce que je vous ai partagé là, fini. Espérons que vous avez entendu quelque chose pour transformer quelque chose en vous. Ça, ça vaut la peine. De se donner un petit peu de sagesse à l'intérieur. Je vais finir par une parole soufie. Le véritable homme de Dieu se tient au milieu de ses semblables et mange, dort, se marie. Il vend et achète, il vit dans le monde sans oublier même un seul moment la vérité. Alors nous on peut faire ça, mais il n'y a pas de problème, il suffit de se souvenir d'être là. Si je peux dire je suis là, c'est impossible que je tombe dans le désespoir ou dans la haine. Je suis là. Essayez de sentir vraiment votre colère dans le corps et d'y croire. Impossible. Je ne peux pas croire à ma colère si je la ressens. Parce que si je la ressens, je la ressens. Je ne suis pas dans la projection conceptuelle. Donc, travailler les ressentis, c'est vraiment important. Et comprendre la pensée. Un beau chemin. Hein? Mais il faut le faire, parce que dans une journée, il y a combien de quarts d'heure où on est vraiment présent dans une journée ? Aujourd'hui, vous avez été vraiment présent, combien de quarts d'heure ? Heureusement qu'on a lundi soir, hein, tous ensemble.